RFI, grand reportage, Laurence Adou.
15 000 morts et plus d'1 500 000 déplacés. L'année 2014 est l'une des plus meurtrières en Irak depuis la guerre civile il y a 7 ans. Avec sa fulgurante ascension et la prise de plusieurs villes irakiennes en juin dernier, l'organisation État islamique n'a épargné personne. Toutes les ethnies, toutes les confessions ont été et sont toujours ciblées. Arabes, kurdes, yazidis, chrétiens, musulmans, sunnites ou chiites. Exécutions, tortures et viols. Là où flotte la bannière noire des djihadistes, c'est le règne de la terreur. Des milliers de femmes yazidis sont aujourd'hui réduites en esclaves sexuels. Les exactions de l'organisation État islamique, récit de victimes, c'est un grand reportage de Sami Boukhalifa. Sami qui a accompagné justement l'aviation irakienne et les Peshmerga à Sinjar, près de la frontière irako-syrienne, au plus près des combats, pour aller à la rencontre de ces civils qui se sont tout juste échappés de l'enfer des djihadistes. Sami que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Décollage de l'hélicoptère de l'armée irakienne. À bord, l'officier Aymar Adnan a établi son plan de vol.
Nous faisons d'abord route vers Fishkabour. Nous devons porter assistance à un hélico qui a essuyé des tirs de Daesh. Nous irons après à Sinjar pour évacuer les blessés, les civils mal en point et aider les combattants à Sinjar.
Après 40 minutes de vol, l'appareil est contraint d'atterrir à cause du brouillard. En cette fin décembre, l'hiver est bien installé dans ces régions du nord de l'Irak. Le mauvais temps, le vent, le froid et la neige dans les montagnes ne facilitent pas les déplacements. Les hélicoptères de l'armée irakienne sont vieux. À leur commande, les pilotes volent sans presque aucun instrument de navigation pour les guider. C'est donc par la route, en convoi sécurisé, que se poursuit la mission. Pour aller de la région d'Erbil à Sinjar, le chemin le plus court passe par Mossoul. Et cette ville, la deuxième plus importante d'Irak, est entièrement contrôlée par les djihadistes. Un détour de plusieurs heures par le nord du pays s'impose.
Nous sommes passés à côté du triangle. C'est comme ça que nous appelons l'endroit où se rencontrent les trois frontières entre l'Irak, la Turquie et la Syrie. Là, nous sommes à Rabia. Daesh a été chassé d'ici le 18 décembre. La Syrie est à 2 km. Et voici le poste frontière de Rabia.
Nabes est un jeune Peshmerga. Il connaît la région comme sa poche et confie que le trajet jusqu'à Sinjar lui paraît à chaque fois interminable. Les routes sont défoncées et les premiers stigmates de la guerre apparaissent. Nous traversons des villages fantômes où les quelques murs encore debout sont tagués du drapeau noir des djihadistes et cette inscription en arabe, l'État islamique demeurera. Nous roulons depuis des heures et bientôt, c'est le mont Sinjar qui nous fait face. Cette montagne rocailleuse est longtemps restée assiégée par les djihadistes. Mais en cette fin d'année 2014, les combattants kurdes irakiens, les Peshmerga, et leurs frères d'armes du PKK turc ont réussi l'exploit de briser le siège. Les combats se déroulent désormais de l'autre côté de cette montagne, au cœur même de la ville de Sinjar. Depuis 5 jours, nous dit-on, la lutte est acharnée. La résistance kurde dispose d'artillerie lourde, mais le chef de cette armée, le général Peshmerga Ashti Kutcher, en a donné l'ordre, hors de question de déployer les grands moyens en zone d'habitation.
Nous ne voulons pas utiliser de missiles pour ne pas détruire les infrastructures de base. Nous voulons y aller étape par étape.
À Sinjar, l'aviation de la coalition internationale est en appui des troupes au sol. Mais pas question de lâcher la moindre bombe. L'idée est de préserver cette ville afin que les gens puissent retrouver leur maison. Les avions sont là pour fournir des renseignements, pas plus. Ce sont donc les forces kurdes sur le terrain, hommes et femmes, qui luttent contre l'organisation État islamique. Venu de Turquie, Nojin Amat, jeune kurde de 31 ans, coordonne les opérations. «
Nous ne céderons pas ici à Sinjar. Nous ne quitterons pas Sinjar tant que la ville n'est pas libérée. Lorsqu'il y a des Kurdes opprimés ou menacés, peu importe où ils se trouvent, nous, le mouvement révolutionnaire du PKK, nous serons là pour les défendre. Il faut aider les civils. Nous aidons les Yazidis comme nous avons aidé la population de Kobané.
Avec sa Kalachnikov entre les mains, Nojin Amat est en première ligne sur le front. Sa seule présence et celle des autres combattantes déstabilisent les djihadistes. Au sein de l'organisation État islamique, être tué par une femme est un déshonneur. Alors Nojin et ses sœurs d'armes comptent bien lutter jusqu'au bout contre ces barbares, dit-elle, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine et qui ont réduit des milliers de femmes originaires de Sinjar en esclaves sexuels.
Cinq mille femmes et jeunes filles ont été enlevées par Daesh lors de l'invasion de Sinjar. Après cela, les femmes d'ici se sont organisées et ont rejoint nos troupes. 30 filles détenues par Daesh ont réussi à s'enfuir et sont venues à nous. Nous les avons protégées puis emmenées dans leur famille. Aujourd'hui, moins de 5000 femmes et jeunes filles sont entre les mains de Daesh. Nous allons essayer de les sauver et sauver le peuple yazidi.
Nous quittons l'enfer de Sinjar vers le mont qui porte le même nom. La route est sinueuse et il suffit de suivre les carcasses de véhicules calcinés et les vêtements qui jonchent le sol pour retrouver la trace des habitants de Sinjar. Quelques jours auparavant, pris de court par les djihadistes, ils ont tout abandonné sur la route et fui à pied. C'est au cœur des montagnes que nous retrouvons une partie des Yazidis de Sinjar. C'est là que cette minorité monothéiste, ni musulmane, ni chrétienne, a trouvé refuge. Cordojordo Ibrahim, un jeune berger, se souvient du jour où il a aperçu pour la première fois la bannière noire des djihadistes.
J'étais sur une colline lorsque je les ai vus. Six d'entre eux se sont approchés de nous, nous étions tous armés. Ils nous ont dit, déposez vos armes et rentrez chez vous, il n'y aura aucun problème. On les a crus, on a déposé nos armes, mais lorsque nous sommes arrivés près de notre village, nous avons vu qu'un autre groupe de Daesh était en train d'arrêter des gens. Ils ont enlevé 48 membres de ma famille. Trois de mes frères et leurs épouses, trois de mes oncles et leurs femmes, mes sœurs aussi. Ils ont ensuite séparé les hommes et les femmes.
À partir de cet instant, tout bascule dans la vie des Yazidis. La plupart des hommes sont exécutés. Les femmes, elles, sont envoyées vers des marchés aux esclaves pour être revendues. Mais les plus jeunes, comme deux sœurs et une cousine de Cordojordo Ibrahim, sont emmenées chez un émir, un chef djihadiste. C'est lui qui doit sceller leur sort.
Mes deux sœurs ont pu s'échapper dès les premiers jours. Ma cousine, elle, ne s'est enfuie que récemment. Lorsqu'elle a été présentée au chef djihadiste, il lui a dit que six de ses hommes... avaient besoin de faire, vous savez, faire ce qu'ils ont à faire. Il y avait aussi d'autres filles, et chaque djihadiste devait passer un jour avec l'une d'elles. Dans une chambre, pendant que les autres montaient la garde, l'un d'entre eux descendait et choisissait une fille pour la violer. Durant cette période, on a aussi appris que Pervin, ma cousine, risquait d'être revendue hors d'Irak, en Syrie peut-être ou je ne sais où. On nous a dit qu'il fallait absolument qu'on la libère.
Impuissante face aux terroristes, la communauté yazidi n'a rien pu faire pour sauver les siens. Elle est actuellement éparpillée dans les camps de réfugiés un peu partout dans le Kurdistan irakien. Affaiblie, cette minorité est aujourd'hui composée en grande partie d'enfants et de personnes âgées, seules, épargnées par les djihadistes. Dans le camp de Khanke, près de la ville de Dohuk, nous retrouvons une vieille dame. Assise à même le sol, elle lave les vêtements de ses quatre petits-enfants. Ils sont tout ce qui lui reste.
J'ai perdu ma fille et 10 membres de ma famille. Je ne sais pas où ils sont. Nous n'avons aucune nouvelle. Je ne sais pas s'ils sont en vie ou s'ils sont morts. Regardez, nous sommes en train de mourir sous ces tentes. Nous demandons de meilleures conditions de vie, mais on ne nous donne rien.
Maman. À Ranke, il n'y a ni eau courante, ni électricité, ni chauffage, et les champs aux alentours servent de latrine. Pour cuisiner, les déplacés yazidis ont fabriqué des fours en terre où les quelques jeunes femmes qui ont fui à temps la menace djihadiste se retrouvent pour pétrir puis cuire leur pain. Rohe a 20 ans, elle est l'une des rares jeunes filles du camp.
Daesh nous a attaqués, mais nous sommes parvenus à nous enfuir. Ils nous ont tirés dessus avec des mitrailleuses. Nous nous sommes enfuis, mais regardez dans quelle situation nous vivons. Nous n'avons rien.
À côté de Jorge, Dalal, 21 ans, répète inlassablement les noms de ses frères, sœurs, cousins et cousines enlevés par l'organisation État islamique. Dernièrement, elle a eu des nouvelles de certains de ses proches. Et même si l'espoir de les revoir un jour en vie est mince, elle préfère encore y croire.
On a des nouvelles des femmes, mais pas des hommes. Les femmes vivent dans de très mauvaises conditions. Elles sont entre Tel Afar et la Syrie.
À quelques kilomètres du camp de Ranke se trouve le camp de Germava. Au moment où nous arrivons, certains réfugiés s'occupent de monter une tente. Un geste bénévole pour aider une famille qui vient de perdre la sienne dans un incendie. Parmi ces réfugiés venus donner un coup de main, Ibrahim Ismail. Le jeune homme vit avec femme et enfant dans ce camp. 6 mois après sa fuite de Mossoul, il se dit hanté par la nuit de son départ.
Ils ont tué mes voisins et s'apprêtaient à m'exécuter. J'ai pris ma fille et ma femme et nous avons sauté par une fenêtre. Ça a été l'un des pires moments de ma vie. C'était l'horreur. Ce sont des monstres. Nous avons abandonné notre maison, la voiture, nos affaires. Mon voisin a été tué par balle. Ils lui ont dit « Tu n'es pas musulman ».
À Mossoul, la quasi-totalité de la population a été accusée d'apostasie par l'organisation État islamique. Beaucoup ont été tués. Mohamed Salah, un jeune homme de 20 ans, s'estime très chanceux. Il a été torturé puis relâché.
Ils m'ont tabassé. J'ai été roué de coups. Ces hommes avec leurs cheveux longs étaient déchaînés. Ils ont détruit notre mosquée et notre maison. Ils nous ont dit qu'on était des mécréants. C'est quoi cette histoire ?
Comme Ibrahim et Mohamed, les 1700 déplacés du camp Germava ont chacun une histoire tragique à raconter. Lors de la prise de Mossoul par les djihadistes en juin dernier, Mohamed Ouana a décidé de ne pas fuir. Mais après 20 jours, trop c'est trop, il est contraint au départ.
Sous Daesh, nous vivions sous pression, sans la moindre raison. On pouvait se faire arrêter ou jeter en prison. Ils enferment les gens sans raison. Ils passaient leur temps à accuser les gens d'être militaires ou policiers. Voilà pourquoi j'ai fini par partir en laissant ma maison, mes affaires et en abandonnant tout ce que j'avais. Je suis parti en emportant avec moi les vêtements que je portais ce jour-là. Je n'ai rien vu de bon depuis l'arrivée de Daesh. L'État islamique n'est en rien un État. C'est un groupe terroriste appuyé par certains pays. Et grâce à cette aide, le groupe Daesh est surpuissant.
Surpuissant au point d'avoir levé une armée de combattants, mais aussi de fonctionnaires, d'ingénieurs et de techniciens. À Mossoul, l'organisation État islamique a détourné les réseaux électriques et hydrauliques au profit de sa capitale, la ville de Raqqa en Syrie. Égare à ceux qui osent protester.
Si on conteste leur décision, on peut être accusé de n'importe quoi et conduit devant un juge. C'était un juge qui se baladait dans la rue et qui ordonnait qu'on coupe une main, qu'on coupe une tête, qu'on paye une amende de $400 ou $500. On pouvait être emprisonné ou tué. J'ai vu tout ça de mes propres yeux. Pendant 20 jours, j'ai vécu sous le règne de ces djihadistes irakiens, saoudiens, français, américains, britanniques. Et il y avait d'autres nationalités encore. Ils n'étaient là que pour détruire le pays. Ils ont fait exploser des maisons, des hôpitaux et même des mosquées et des églises.
Ils ont détruit les mosquées, les hôpitaux et même les églises.
Exactions de l'organisation État islamique, récits de victimes, grand reportage Sami Bourlifa, réalisation Eva Moshinsky.
Samy, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors vous êtes il y a quelques jours en Irak, on l'a entendu dans votre grand reportage, vous vous êtes rendu sur le front de Sinjar. Cette ville est toujours en proie au combat.
Oui, malheureusement, vous savez Laurent, les habitants de Sinjar ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. D'un côté, les forces kurdes composées des Peshmerga, donc les Kurdes irakiens et leurs frères d'armes du PKK turc, ainsi que les Kurdes syriens, luttent avec acharnement pour récupérer cette ville. Mais de l'autre côté, il y a aussi une résistance djihadiste vraiment farouche. Vous savez, dans cette région, pendant des semaines, l'organisation État islamique n'a fait que reculer. Ses troupes ont battu en retraite jusqu'à Sinjar, mais désormais, ils ne veulent plus faire machine arrière. Sinjar est pour eux une position stratégique. C'est l'une des dernières villes qu'ils contrôlent dans le Kurdistan irakien, et forcément, ils veulent la garder.
Samy, lorsque vous étiez à Sinjar, fin décembre, donc, les forces kurdes lançaient tout juste leur offensive contre les djihadistes dans cette ville. Près de 20 jours plus tard, les djihadistes contrôlent toujours plus de la moitié de la ville.
Oui, c'est la stratégie kurde. En fait, les Peshmerga refusent de lancer une offensive à l'aide d'artillerie lourde. Leur objectif, c'est de libérer Sinjar en faisant le moins de dégâts possible dans cette ville. C'est pour ça qu'ils y vont par étapes et se lancent dans une espèce de guérilla urbaine à l'arme légère qui prend forcément plus de temps et qui est au final très coûteuse en vie humaine. Mais selon eux, il est essentiel de préserver les infrastructures de base des villes afin que les gens puissent retrouver leur foyer, afin que les gens puissent retrouver leur maison. Vous savez, il y a plus d'un million de réfugiés et ou de déplacés actuellement dans le Kurdistan irakien.
Alors soyons précis et clairs, 1 500 000 réfugiés et ou déplacés, vous le rappelez tout à l'heure, c'est une véritable tragédie, un drame humanitaire qui se joue dans ces régions d'Irak.
Ah, tout à fait, les autorités kurdes ont beau faire preuve de toute la bonne volonté du monde, elles sont, on peut le dire, elles sont dépassées. Certains camps de déplacés ou réfugiés sont bien organisés, bien gérés, avec toutes les commodités dont ont besoin les gens pour vivre non pas confortablement, mais peut-être, disons, d'une manière correcte. Le camp de Germava, par exemple, accueille les déplacés de la ville de Mossoul. Et dans ce camp, on trouve des tentes posées sur des plateformes en béton. Chaque famille a aussi sa propre cuisine construite en dur. Donc, les risques d'incendie sont au final limités. Mais d'autres camps, comme celui de Khanke, qui accueille des déplacés yazidis, eh bien, c'est juste une véritable catastrophe. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni chauffage. Dans ce camp, il n'y a pas non plus de toilettes.
Alors, Samy, il y a également les déplacés chrétiens, il faut en parler. Alors justement, on n'en parle pas dans votre grand reportage, mais leurs récits ont fait l'objet d'autres reportages que vous avez réalisés pour nous ici à RFI et qui ont été diffusés durant les fêtes de Noël sur notre antenne. Ils vivent également une situation insoutenable.
C'est un double cauchemar en fait pour les chrétiens d'Irak. Ils sont deux fois déplacés. Une première fois, donc les chrétiens d'Irak étaient surtout, vous savez, ils étaient basés dans la région de Bagdad lors de la guerre civile en 2006, 2007 et 2008. Ils ont été menacés lorsqu'ils étaient dans la capitale irakienne. Ceux qui en avaient les moyens sont partis à l'étranger. Les autres se sont réfugiés dans le nord, près du Kurdistan irakien, dans les villes de Mossoul ou dans d'autres villes comme Karakoch. Et l'été dernier, lors de l'offensive djihadiste contre ces régions, une nouvelle fois, ils ont été menacés. Et vous savez, cette phrase qui revient toujours lorsqu'il s'agit des chrétiens d'Irak, les djihadistes leur ont au final laissé le choix entre la valise ou le cercueil. Vous savez, le nombre des chrétiens en Irak ne fait que baisser. En 2003, ils étaient plus d'un million. Aujourd'hui, ils sont à peine 300 000.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage à réécouter dans son intégralité sur
RFI.fr.
Samy Bourlifa, merci beaucoup.
Merci à vous.
Accent d'Europe vous propose...